Vous écoutez, on lit pour vous.
Les avancées scientifiques. Méfiez-vous des titres sensationnalistes. Un texte de Jeanne Choquette paru le 17 avril 2025 dans le magazine Sourdine. Par intérêt personnel et dans le cadre de mes fonctions à titre de membre du comité de rédaction de Sourdine Express, il va de soi que je surveille attentivement ce qui se publie sur le web, dans les médias spécialisés et dans des groupes Facebook au sujet de la santé auditive et la recherche scientifique. C'est encore plus facile depuis qu'Audition Québec s'est dotée d'un puissant outil de veille qui scrute en temps réel ce qui s'écrit sur le sujet. Deux titres ont capté mon attention récemment, laissant entrevoir des percées scientifiques importantes dans le domaine de l'audition. Mais comme ça sonnait trop beau pour être vrai, j'ai décidé de consulter des spécialistes québécois pour connaître leur avis. Le but ici n'est pas d'être pessimiste et d'étouffer l'espoir de retrouver une meilleure audition et de faire taire les acouphènes, mais plutôt d'avoir des attentes réalistes. La recherche sur les acouphènes. Le premier titre lu sur le site Trust My Science, un titre de site en anglais, bien que les articles viennent de France et soient écrits en français. Acouphènes, une percée scientifique récente pourrait enfin les faire taire. Je vous laisse le soin de lire l'article, qui est très intéressant. Mais est-ce que ça va donner des résultats bientôt? Vraiment? Mon premier réflexe, retracer l'article, anglophone, qui est à la source de ceci. En googlant le nom de Keck School of Medicine de la University of Southern California, je le retrouve facilement. Nerve fibers in the inner ear adjust sounds level and help compensate for hearing loss in mice, study finds. Notez que le titre de l'article anglophone est pas mal moins sensationnaliste que celui en français. Mon deuxième réflexe, consultez la spécialiste des acouphènes au Québec, Sylvie Hébert, PhD, pour connaître son avis. Madame Hébert est professeure titulaire en audiologie de l'École d'orthophonie de l'Université de Montréal et y dirige le laboratoire de recherche sur les acouphènes et l'hyperacousie. Elle a aussi publié le livre « Acouphènes, les reconnaître et les oublier ». Je cite la réponse de Madame Hébert. C'est une nouvelle intéressante qui semble mettre à jour le rôle des fibres auditives descendantes, du tronc vers la cochlée, dans le rôle de l'amplification des sons, à l'aide d'une technique d'imagerie utilisée en ophtalmologie. On savait que dans une perte auditive, il y a une suractivité des structures auditives plus centrales, du tronc au cerveau, ce qui donne lieu à l'acouphène, activité augmentée spontanée, et à l'hyperacousie, activité augmentée lorsqu'il y a du son ambiant. Mais ce que cette étude suggère, c'est que l'augmentation d'activité vient d'en haut. C'est une première étape. Je ne dirais pas que la prochaine étape est de faire des médicaments. Il faut voir si ce phénomène est observable chez l'humain, car c'est une étude chez les souris. Bref, c'est une belle découverte, mais qui doit être corroborée et élaborée. La bonne nouvelle, à mon avis, c'est que c'est clair que la recherche avance. Un implant cochléaire invisible? Le deuxième titre qui a retenu mon attention est celui-ci. Envoy Acclaim, un implant auditif totalement implantable et invisible. Je cite l'article. Acclaim est un implant auditif invisible totalement implantable qui fonctionne par stimulation acoustique. Cette avancée intervient en réponse aux limitations des implants cochléaires actuels qui requièrent des composants externes encombrants. Le dispositif Acclaim d'Envoy Medical élimine ce besoin en intégrant une source d'énergie rechargeable et un capteur dans l'oreille moyenne. Vraiment? Est-ce une arnaque? Est-ce sérieux? Vite, allons consulter deux ORL expertes en implants cochléaires et alliés d'Audition Québec, Dr. Émilie Kay-Rivet et Dr. Tamara Mijovic, toutes les deux affiliées au programme d'implants cochléaires du CUSM, le Centre universitaire de santé McGill. La réponse est courte et unanime. Les TICI, Totally Implantable Cochlear Implants, sont en effet en développement par plusieurs compagnies. Notamment, Medl a déjà eu quelques cas, mais le tout est encore sous investigation avec plusieurs enjeux à optimiser, notamment la recharge et la qualité sonore du microphone implanté. À mon avis, on est encore à plusieurs années de voir ça sur le marché. En conclusion, je dirais qu'il faut toujours contre-vérifier les informations qui nous parviennent du web en ce qui concerne la santé auditive. C'est simplement une bonne précaution à prendre. C'était « Les avancées scientifiques. Méfiez-vous des titres sensationnalistes ». Un texte de Jeanne Choquette, paru le 17 avril 2025 dans le magazine Sourdine.
Le Trident, un théâtre accessible à tous, un texte de Marie-Claude Thibodeau, paru le 13 mai 2025 dans Le Soleil. Le Trident s'est non seulement doté d'un programme d'accessibilité universelle, mais y a aussi désormais dédié quelqu'un de son équipe permanente, Véronique Larochelle, directrice du développement philanthropique et des partenariats. C'est avec plaisir que celle-ci a accepté de répondre à mes questions et d'expliquer les initiatives réalisées dans le cadre de ce projet. Question. Pourquoi t'impliques-tu dans la mise en place de ce programme? Réponse. En discutant avec divers organismes, dont l'Association régionale de loisirs pour personnes handicapées de la capitale nationale, j'ai rapidement constaté le manque d'offres culturelles à Québec, particulièrement en théâtre, pour les personnes avec un handicap. C'était aussi, depuis le départ, l'un des souhaits de toute l'équipe du Trident de structurer un programme d'accessibilité universelle afin que nos initiatives deviennent récurrentes. Au commencement du projet, en 2023, nous avons fait appel à l'organisme Carrefour familial des personnes handicapées pour connaître les améliorations à apporter. C'est ainsi que l'information sur notre site Web a été bonifiée, que nous avons indiqué les dimensions de l'ascenseur pour les personnes à mobilité réduite et que nous avons identifié les espaces qui leur sont réservés dans la salle. Nous avons également établi de nouvelles procédures pour mieux recevoir cette clientèle et avons pu compter sur une belle collaboration de la part du Grand Théâtre pour appliquer, dans la mesure du possible, les recommandations du rapport. Question. Quelles sont les mesures d'accessibilité que vous avez créées pour accommoder les personnes malentendantes? Réponse. Le Grand Théâtre de Québec offre gratuitement des systèmes de transmission FM à faible portée disponibles aux vestiaires lors de toutes les représentations. Nous prenons d'ailleurs désormais le temps d'aviser tous les spectateurs et toutes les spectatrices à chaque début de spectacle que certaines personnes dans le public pourraient utiliser des appareils de transmission. Cet avertissement permet non seulement de sensibiliser les gens pouvant être assis près de ceux et celles utilisant les appareils, mais il informe également de la présence des 10 appareils pour ceux et celles pouvant en avoir besoin. Finalement, au Trident, nous avons ajouté une représentation par saison interprétée en langage des signes québécois, LSQ. La prochaine pièce à laquelle pourront assister les personnes sourdes sera « Le petit astronaute » le 2 mai prochain. Question. Avez-vous également des mesures d'accessibilité pour les personnes aveugles ou malvoyantes? Réponse. Oui, bien sûr. Nous proposons une représentation par saison avec le service d'audio-description. Avant la pièce, nous invitons les personnes aveugles ou malvoyantes avec leur accompagnateur ou leur accompagnatrice à une médiation en compagnie d'artistes du spectacle afin de leur décrire le mieux possible chaque personnage et de répondre à leurs questions. C'est une préparation à l'expérience qu'ils vivront. Puis, nous les accueillons en salle avant l'arrivée du public pour les aider avec le téléchargement de l'application et leurs écouteurs. Grâce à leur appareil, tout le long de la représentation, ils entendront en direct la description des éléments visuels et des actions entre les dialogues, permettant ainsi une meilleure compréhension de l'intrigue. Notre prochaine représentation en audio-description sera la pièce Hamlet le 21 mars prochain. Question : et pour les personnes à mobilité réduite ? Réponse : nous avons des sièges qui leur sont réservés dans la rangée P, située au même niveau que l'entrée de la salle. Puisque nous ne disposons que de 4 espaces pour les fauteuils roulants, il est recommandé d'acheter ces billets à l'avance. Nous avons également 2 fauteuils roulants manuels disponibles pour faciliter les déplacements dans le Grand Théâtre de Québec. Question : est-ce que le Trident propose des billets à prix réduit aux personnes avec un handicap ? Réponse : nous offrons un tarif accessible à 40 $ pour toute personne avec un handicap. De plus, l'entrée est gratuite pour l'accompagnateur ou l'accompagnatrice qui possède une carte accompagnement loisirs, CAL, ou la carte de l'Institut national canadien pour les aveugles et la santé visuelle, INCA. Question : comment ce programme est perçu par la clientèle concernée ? Réponse : plusieurs nous ont témoigné leur reconnaissance. Ils nous remercient de leur faciliter l'accès au théâtre et de leur permettre de se sentir plus inclus dans le milieu culturel. Une fidèle collaboratrice et personne sourde qui a assisté à la représentation en compagnie de sa fille entendante nous a raconté qu'elle avait adoré pouvoir échanger avec elle sur le spectacle. Elle était heureuse du bon moment passé ensemble. Notre programme d'accessibilité universelle a reçu également des éloges de la part de divers organismes. Nous avons obtenu le prix Mosaïque 2024 de l'Union des artistes et le prix Papillon 2024 de la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, COFAN. 2 belles reconnaissances qui démontrent l'appréciation de nos initiatives dans le milieu culturel. Question : quelle est la suite pour le Trident en accessibilité universelle ? Réponse : nous souhaitons faire connaître davantage notre programme afin qu'un plus grand nombre de personnes en profitent et éventuellement bonifier l'offre. C'était Le Trident, un théâtre accessible à tous, un texte de Marie-Claude Thibodeau paru le 13 mai 2025 dans Le Soleil.
Partager la passion de la course, un texte de Gilles Boutin, paru le 12 mai 2025, dans le Journal de Lévis. Pour une 5e saison, les courses partagées de Lévis font leur retour, et ce, avec quelques nouveautés cette année. Le club vise d'agrandir son offre de services et venir en aide à davantage de personnes ayant une limitation physique ou cognitive. Les courses partagées sont de plus en plus présentes au Québec dans différentes villes comme Québec, Sherbrooke ou Montréal. Le club de Lévis a démarré sous l'initiative de Pierre Quintin, ancien employé du Patro de Lévis. C'est ce dernier qui avait notamment trouvé le financement pour obtenir le matériel nécessaire, soit le Cartus, un fauteuil adapté pour transporter une personne en faisant de la course à pied. Les courses partagées de Lévis sont encore possibles grâce à la présence de bénévoles au sein de l'organisation, en plus de coureurs bénévoles qui se déplacent pour les sorties et pour pousser les Cartus, comme toutes les activités du club sont offertes gratuitement. Cette activité sportive permet de faire vivre un moment en plein air à des personnes qui n'ont pas toujours la capacité de pouvoir le faire seules. Le club a également pour objectif d'aider à la socialisation et de permettre de découvrir les paysages lévisiens alors que certaines personnes ayant une mobilité réduite ne pourraient le faire autrement. Pour la saison 2024, le club des courses partagées de Lévis a effectué 17 sorties durant l'été. Pour ces sorties régulières, ce sont, en moyenne, de 4 à 8 bénévoles qui étaient présents, ainsi que de 4 à 8 participants. Quelques autres sorties de démonstration et activités de promotion ont également eu lieu dans différents endroits, comme à la résidence de confort de Saint-Rédempteur, le centre d'hébergement Champlain-Chanoine-Audet à Saint-Romuald, et lors de la fête du Canada le 1er juillet au fort numéro 1. Le club a également participé aux 10 km de l'Université Laval. Nouveauté. Cette année, en plus de continuer sa saison régulière comptant 12 sorties, les samedis de 10h à 11h30, les courses partagées ont obtenu un financement leur permettant d'aller faire des visites dans les résidences pour aînés, RPA, et les CHSLD de la ville, pour faire vivre cette activité aux aînés. Ce sont 10 visites en résidence qui sont prévues cet été. Grâce au réseau d'éclaireurs en Chaudière-Appalaches, un programme du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, CISSCA, le club a obtenu le financement nécessaire pour l'achat de 2 Quartus supplémentaires, portant sa flotte à 8 Quartus, ainsi que pour financer les déplacements du camion qui transporte le matériel nécessaire aux sorties. Autre nouveauté cette année, visant à rendre plus accessibles les sorties régulières, le Patro de Lévis, partenaire principal du club de course, remboursera les déplacements des participants qui doivent venir en taxi. Avec cet ajout, le Patro espère augmenter l'achalandage et faire découvrir les courses partagées à davantage de personnes. Les sorties du samedi se déroulent le long de la piste cyclable, à proximité du parc de Lens-Tibit, et sont prévues de mai à octobre. Tout dépendant du coureur, il s'agit d'un parcours d'1 à 5 km. Pour participer aux activités du club du samedi, il n'est pas nécessaire de s'inscrire. Pour les personnes qui souhaiteraient devenir un coureur bénévole afin d'accompagner les participants, il est possible de contacter le club à coursepartagee@patrolevis.org. C'était « Partager la passion de la course », un texte de Gilles Boutin, paru le 12 mai 2025 dans le Journal de Lévis.
La Fondation Papillon au service des personnes handicapées depuis 95 ans. Un texte de Marie-Hélène Dufay-Marinescu, paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir. Depuis 1930, la Fondation Papillon accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles. Elle offre aujourd'hui des services allant de la garderie inclusive au camp de jour, en passant par le répit et l'ergothérapie. Des services de garderie et de répit au camp de jour, en passant par l'ergothérapie, la Fondation Papillon propose une panoplie de services aux personnes en situation de handicap, adultes et enfants, sans limite d'âge. À travers le temps, la Fondation a progressivement élargi son offre au gré des nouveaux besoins émergents. Il y a 95 ans, elle proposait simplement un camp de vacances, des orthèses ainsi qu'un transport spécialisé, raconte sa directrice générale Suzy Guérin. Aujourd'hui, près de 100 enfants, dont 20 en situation de handicap, fréquentent leur garderie inclusive. Cette mixité, avance-t-elle, est bénéfique tant pour les enfants neurotypiques que pour ceux qui sont neuroatypiques. Quant au centre de jour, il accueille quotidiennement 25 personnes. Des services essentiels. Ces services sont essentiels aux yeux de Marie-France Gravel, habituée de la Fondation Papillon. Sa fille, Ariel, âgée de 34 ans, fréquente la Fondation depuis de nombreuses années. Elle a commencé à la garderie durant son enfance, avant de passer par le répit et le centre de jour. Il est difficile d'obtenir des services pour les personnes en situation de handicap dans le réseau public, témoigne Mme Gravel. L'obtention d'une place en centre de jour pour sa fille s'est avérée laborieuse, à l'issue de ce qu'elle qualifie de bataille juridique longue de 2 ans. Après la pandémie, les services du centre de jour sont passés de 5 à 3 jours par semaine. Une offre jugée insuffisante par la mère d'Ariel, qui n'aurait pas pu continuer à travailler les 2 autres jours sans les services de la Fondation. Le milieu scolaire prend en charge les enfants en situation de handicap jusqu'à leurs 21 ans, mais il y a ensuite un vide, confie Marie-France Gravel. Le continuum de services proposés par la Fondation, poursuit Suzy Guérin, répond à des besoins qui ne sont pas toujours pris en charge par les services publics. Selon elle, les services de la Fondation sont complémentaires à ceux qu'offre le gouvernement. Chaque année, près de 500 personnes en situation de handicap fréquentent le camp Papillon, où naissent de nombreuses amitiés, avance Suzy Guérin. Il favorise en effet la socialisation et la stimulation des usagers. Certains fréquentent l'endroit depuis leur enfance et continuent d'y venir pendant des années, raconte la directrice, pour qui la Fondation constitue un véritable tissu social. Les activités proposées sont par ailleurs valorisantes et stimulantes, car les participants sont amenés à dépasser leurs limites et à développer de nouveaux acquis, explique-t-elle. En plus d'offrir un accès à la nature, les camps encouragent l'activité physique et l'autonomie. Les usagers sont ainsi acteurs de leur camp, car de nombreux éléments, tels que les sentiers, sont adaptés à leurs besoins, dit-elle. Certaines personnes en situation de handicap ont parfois des besoins importants. La Fondation offre de ce fait un temps de répit pour la famille qui peut avoir besoin de se ressourcer, dit Mme Guérin. Une question de financement. Le financement constitue l'une des principales difficultés de la Fondation Papillon, reconnaît la directrice. Les ressources humaines et l'infrastructure engendrent des coûts, dit-elle. Certaines personnes ayant un handicap ont besoin de bains, de lits adaptés ou encore de lèvres-personnes. Nos services sont très onéreux. Sans levée de fonds, on n'existe pas, confie la directrice. La Fondation prend en charge une partie des coûts associés aux services rendus, explique Suzy Guérin. Elle précise qu'un séjour au camp Papillon coûte 900 $ à la famille, alors que son coût réel est d'environ 3 000 $. Cela s'applique à tous les services, assure-t-elle. Les sources de financement de la Fondation proviennent à la fois de la contribution des usagers, de subventions, mais aussi de collectes de fonds, peut-on lire sur le site de la Fondation. Cela nous permet d'ajuster nos prix et d'avoir une offre accessible pour les parents, sans quoi ce serait impossible, dit Mme Guérin. Pour les familles à moindre revenu, une aide est accordée selon les capacités financières, comme l'indique la Fondation sur son site. À l'avenir, la directrice souhaiterait que la Fondation puisse desservir davantage d'enfants et développer de nouveaux services. C'était la Fondation Papillon, au service des personnes handicapées depuis 95 ans. Un texte de Marie-Hélène Dufay-Marinescu, paru le 10 mai 2025 dans Le Devoir.
Une maison intelligente pour les petits rois à Montréal. Un texte de l'agence QMI. Paru le 9 mai 2025 dans TVA Nouvelles. Une nouvelle maison intelligente qui accueille des adultes atteints de déficience intellectuelle pourrait révolutionner les soins offerts à cette clientèle vulnérable. Lancée il y a 1 an dans le quartier Côte-des-Neiges, à Montréal, la maison intelligente Les Petits Rois, gérée par la Fondation des Petits Rois, est une initiative unique au pays. Elle se démarque par ses nombreux outils technologiques conçus pour aider ses 8 occupants à développer leur autonomie. Miroir intelligent, salle multisectorielle, tout est mis en œuvre pour assister les résidents dans leurs tâches quotidiennes. Célia, 33 ans, est une petite reine qui habite la résidence. Cette dernière a vu ses capacités communicationnelles décuplées grâce aux divers outils à sa disposition. Elle adore sa vie à la maison. « J'aime beaucoup parce que j'ai fait la cuisine et tout », a-t-elle dit à TVA Nouvelles. Erika Leiter, une éducatrice spécialisée qui travaille à la maison, a noté de réels progrès chez Célia. Elle est plus motivée pour faire l'exercice, elle a aussi développé des compétences sociales, a-t-elle illustré. Elle a vraiment évolué à exprimer ses sentiments clairement, alors qu'avant, moi, je la connais bien, je devinais, a noté Micheline Marois, la mère de Célia. Les technologies offertes permettent aux occupants de favoriser leur estime de soi et leur autonomie, tout en aidant le travail des intervenants, selon Dany Lucier-Desrochers, chercheur à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ce qu'on réalise aussi, c'est qu'en accompagnant nos intervenants ici, à la maison, parce qu'intégrer les technologies, c'est quand même assez complexe, on réalise qu'ils sont mieux outillés, a-t-il expliqué. Venise Rowe, la directrice de la maison intelligente, est extrêmement fière de l'évolution de ses petits rois dans la dernière année. Simplement de regarder les jeunes quand ils sont assis à table tous ensemble, puis d'avoir l'impression d'avoir réussi cette unité-là, l'esprit de famille, l'esprit de famille, oui, c'est vraiment merveilleux, a-t-elle confié. Cette maison risque d'être la première d'une longue série au Québec. Vania Aguillard, la présidente fondatrice de la Fondation des Petits Rois, a une vision ambitieuse pour l'avenir de son projet. Dans 10 ans, j'aimerais ça qu'on puisse avoir plus d'une centaine de maisons comme celle-ci au Québec, partout au Québec. Parce que des petits rois, il y en a dans la Côte-Nord, en Gaspésie, en Abitibi. Et le but de l'exercice, c'est que tous ces jeunes-là puissent profiter de ce concept, a-t-elle décrit. C'était Une maison intelligente pour les petits rois à Montréal, un texte de l'agence QMI, paru le 9 mai 2025 dans TVA Nouvelles.